France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
À l'occasion du 50e anniversaire de sa mort, revenir à Hannah Arendt, c'est se demander ce que sa pensée du mensonge et de la responsabilité individuelle peut nous apprendre pour résister à ce brouillage du vrai et du faux. Comment ne pas se laisser glisser dans l'indifférence ou le cynisme face à cette confusion organisée? Comment défendre un monde commun où les faits comptent véritablement? Et premièrement, une invitée ce soir pour nous éclairer, Aurore Mrejen. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ingénieure de recherche à l'Université Paris-Nanterre, chercheuse associée au laboratoire Sophia Paul, spécialiste de l'œuvre d'Hannah Arendt. Vous venez de faire paraître aux éditions de La Découverte cet ouvrage sobrement intitulé « Introduction à Hannah Arendt ». Merci d'être ce soir au micro de Questions du Soir.
Everything which happens.
Tout ce qui se passe lorsqu'on pense est soumis à un examen critique, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de pensée dangereuse pour la simple raison que le fait de penser est en lui-même une entreprise très dangereuse. Mais ne pas penser est encore plus dangereux.
La voix très émouvante et en deux langues d'Hannah Arendt, elle s'exprimait en 1973 et dans le monde contemporain, celui que nous partageons à travers la montée des autoritarismes, l'usage assumé du mensonge en politique, le brouillage du vrai et du faux, la crise de confiance aussi dans les institutions, la pensée d'Arendt a-t-elle toujours autant, si ce n'est plus de force même qu'il y a 50, 60, 70 ans?
Oui, en tout cas, l'archive qu'on vient d'entendre, c'est une archive de 73, je crois, dans l'entretien avec Roger Herrera, où elle s'exprimait, il me semble, à propos du procès d'Eichmann et de ce qu'elle a, enfin, l'incapacité de penser et de juger par lui-même d'Eichmann. Et effectivement, dans cette archive, elle explique pourquoi, en fait, la pensée est dangereuse, c'est-à-dire qu'elle détruit elle remet en question, c'est une remise en question permanente, mais ce qu'elle a mis effectivement en évidence lors du procès d'Eichmann, c'est l'incapacité totale de penser, de juger d'Eichmann. Et ça, c'est ce qu'elle appelle la banalité du mal, c'est-à-dire le fait de que le mal puisse vraiment se répandre comme ça, comme un champignon à la surface de la Terre, parce qu'il n'est pas arrêté par la radicalité de la pensée qui, elle, a des racines et qui s'ancre véritablement dans une profondeur.
On va revenir évidemment à ce concept, mais un pas en arrière avant cela. Ce qui est troublant aussi avec Hannah Arendt, c'est que ces mots, ces concepts sont à peu près partout dans le langage commun, dans le langage journalistique, parfois même sans que l'on s'en rende compte. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou bien un danger, selon vous, Aurore Mrejen, parce que parfois, ces concepts-là sont mal utilisés, mal employés?
Oui, complètement. Bah, typiquement, celui de la banalité du mal, déjà, c'est pas un concept, c'est une expression qu'elle a employée à l'occasion d'une analyse de ce procès et dans un contexte qui est vraiment celui...
Le procès d'Eichmann, donc.
Voilà, et aussi un contexte totalitaire, c'est-à-dire c'est le contexte où, comme elle l'explique, il y a un renversement total des valeurs morales. C'est-à-dire que chaque acte légal devient un crime et chaque acte... Enfin, et à l'inverse, chaque acte, il est... Voilà. Et donc, ce contexte-là, par exemple, la banalité du mal, on l'utilise dans n'importe quel contexte, en entreprise. Dès qu'il s'agit d'obéir aux ordres, on explique que c'est la banalité du mal. Et donc ça, typiquement, c'est quelque chose, je pense, avec lequel il faut faire assez attention, parce que on peut pas le transposer directement à un contexte non totalitaire, même si, bien sûr, il y a beaucoup de parties de l'analyse d'Arendt sur cette question, notamment sur la question de l'obéissance, sur la question de la responsabilité, qui sont très utiles pour nous aujourd'hui et très précieuses pour penser le monde dans lequel nous vivons et pour penser certains aspects de l'obéissance et de la démission de soi-même, de la pensée du jugement qui permet d'obéir à des choses pour lesquelles on pourrait refuser.
Comment est-ce que vous caractériseriez la philosophie d'Hannah Arendt ? Est-ce que c'est d'abord et avant tout une philosophie de la pensée du monde dans lequel elle vit ? Est-ce qu'elle tente toujours, d'abord et avant tout, de s'inscrire dans l'actualité, dans ce qui l'entoure, dans le monde dans lequel elle est elle-même immergée ?
Oui, complètement. Elle a écrit beaucoup sur des événements qui se sont passés quand elle était aux États-Unis. Elle a écrit sur la désobéissance civile, elle a écrit sur la société de consommation, sur la crise de la culture, la question du mensonge en politique à partir des Pentagon Papers, on va certainement y revenir. Et puis, quand elle écrit les origines du totalitarisme en 51, c'est vraiment la question qu'elle pose au départ, c'est qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi cela s'est-il passé et comment cela a-t-il été possible ? C'est-à-dire vraiment, c'est les trois questions qu'elle pose en préambule des origines du totalitarisme à partir de la Shoah et en essayant de comprendre cette fabrication de l'être humain superflu, mais vraiment dans ce contexte, en analysant l'antisémitisme, l'impérialisme et le système totalitaire. Donc oui, à chaque fois, il y a vraiment un souci chez Arendt de partir de l'événement. D'ailleurs, elle dit elle-même dans la préface à la crise de la culture que la pensée naît d'événements, de l'expérience des vécus, et elle doit leur demeurer liée comme au seul guide propre à l'orienter. Donc c'est vraiment, je pense, ce qui fait aussi la singularité de la pensée d'Arendt, c'est d'être vraiment liée toujours à l'événement et ensuite d'en tirer des pistes philosophiques qui sont bien sûr très éclairantes encore pour nous aujourd'hui, parce qu'elle a mis en évidence vraiment des traits importants de la société de consommation, du problème du mensonge en politique, et beaucoup d'autres bien sûr. Mais en tout cas, je pense qu'à chaque fois qu'on se réfère à la pensée d'Arendt, il faut aussi bien se souvenir que c'est pas des recettes qu'on peut appliquer, mais que à chaque fois, si on veut être fidèle à sa pensée, c'est vraiment d'analyser vraiment chaque événement dans sa singularité et sa particularité.
Alors avançons pas à pas, Mrejane, pour comprendre cette pensée, sa complexité, le contexte également dans lequel elle s'inscrit et se déploie. Commençons par justement par la banalité du mal, tiens, puisque vous nous l'avez évoqué à plusieurs reprises. Mais avançons pas à pas, que nous dit Arendt pour commencer de la question de la responsabilité individuelle dans une société de masse ?
Alors, ça, c'est important aussi de... Alors, vous parlez de la banalité du mal, elle en a parlé justement après le procès d'Eichmann, où elle a écrit un livre qui est intitulé « Responsabilité et jugement », enfin plutôt c'est un recueil de textes, d'articles, et c'est important parce que on lui a reproché de faire d'Eichmann un pantin qui obéissait aux ordres. Et justement, le point de départ, ce qui est évident pour elle, c'est qu'il est responsable et coupable. Et donc, pour elle, elle met en avant l'importance de l'institution judiciaire devant laquelle on ne peut pas juste se présenter comme quelqu'un qui a comme un rouage, ce qui était le cas d'Eichmann qui essaie de se défendre en se présentant comme le rouage d'une machine. Et donc, elle... Jusqu'à un certain point, elle accepte de le croire quand il dit qu'il a obéi aux ordres, en essayant de comprendre ce que ça signifie en réalité d'obéir aux ordres quand on est un adulte. Et ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, l'obéissance, c'est quelque chose qui peut s'appliquer à des enfants, qui peut s'appliquer à l'école maternelle, au jardin d'enfants, mais pas pour des adultes. Et pour des adultes, l'obéissance, en tout cas en politique, parce que pour les adultes, le terme peut s'employer, par exemple, dans le domaine de la religion. Si on croit en Dieu, on peut dire qu'on obéit à Dieu. Mais dans le domaine de la politique, l'obéissance et le soutien, c'est la même chose. Donc, quand on obéit, en réalité, on soutient un système politique.
Ce qu'elle dit, par ailleurs, à propos d'Eichmann et de cette banalité du mal pour tenter de comprendre ce qui l'a conduit à commettre les horreurs commises, c'est aussi qu'Eichmann ne s'est peut-être pas rendu compte. Et je trouve que d'ailleurs c'est une approche assez incroyable, même pour comprendre le monde contemporain, cette question de se rendre compte de ce qu'on fait politiquement en tant qu'adulte. Comment l'aborde-t-elle ?
Alors, se rendre compte, je pense que c'est vraiment apprendre au sens littéral, se rendre des comptes à soi-même. Et ça rend...
Pas seulement réaliser.
Ben, réaliser, c'est se rendre des comptes. C'est vraiment ce qu'elle appelle la pensée. C'est vraiment ce dialogue intérieur avec soi-même, qui permet de considérer la personne avec laquelle on vit. Elle reprend d'ailleurs elle reprend à Socrate et Platon cette idée du dialogue intérieur de la pensée. Et en examinant le cas des personnes qui n'ont pas obéi aux ordres criminels, ce qu'elle montre, c'est que ces personnes-là, ce qui était important pour elles, c'était justement cette harmonie, ce dialogue intérieur avec soi, et qui est fondé sur une réflexion, et que que c'est pas du tout fondé sur une intelligence particulière, mais sur l'impossibilité. Enfin, elle dit que leur conscience n'a pas fonctionné de manière automatique et qu'elles ont jugé vraiment chaque cas à mesure qu'il se présentait, sans obéir justement. Pour elles, pour ces personnes-là, ça n'était pas possible d'obéir. Et c'est pas du tout un jugement moral qu'elle porte là, mais c'est une façon de dire que plusieurs attitudes étaient possibles et que face à cette pluralité d'attitudes possibles, elle examine voilà comment pourquoi il y a une responsabilité et pourquoi devant un tribunal on ne juge pas l'histoire, on ne juge pas un isme, on ne juge pas l'antisémitisme, mais on juge une personne de chair et de sang. Et si cette personne se défend en disant qu'elle n'était qu'un rouage, la question à lui poser est mais alors pourquoi avez-vous décidé d'être un rouage? Donc cette histoire de se rendre des comptes, c'est vraiment de se considérer comme une personne morale, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'avoir une pensée sur ce qu'elle fait. Et justement, elle parle d'Eichmann en disant c'était un nobody, c'est-à-dire quelqu'un qui n'endosse pas cette responsabilité morale.
Ce qu'explique également Hannah Arendt, c'est que Eichmann n'a pas rencontrer de conscience qui s'opposait à la solution finale, qui s'opposait à l'horreur dont il était lui-même une minuscule partie prenante.
Alors oui, enfin, elle montre effectivement que la conférence de Wannsee en 42 a constitué vraiment un moment un peu charnière dans le retournement de la conscience d'Eichmann, qui effectivement à ce moment-là a vu que tous les hauts dignitaires du Troisième Reich avaient imposé de coordonner les efforts pour mettre en œuvre la solution finale.
Donc, mais c'est ça qui est important, pardonnez-moi l'expression que vous avez employée, le retournement de la conscience, comprendre comment une conscience se retourne.
Oui, et c'est ce qu'elle essaye de faire, tout en montrant que ce retournement de la conscience a eu lieu dans le cadre d'un renversement total des valeurs, en fait, sous le Troisième Reich. Et c'est pour cette raison aussi qu'il est délicat, en tout cas qu'il est possible, mais avec des pincettes, je dirais, d'utiliser l'expression de banalité du mal dans un contexte non totalitaire.
Extrait de Eichmann à Jérusalem, rapport sur la banalité du mal qui est paru en 1963, une lecture par Céline Monsara.
Le mal est un phénomène de surface. Nous résistons au mal en refusant de nous laisser submerger par la surface des choses, en nous arrêtant et en réfléchissant. C'est-à-dire en dépassant l'horizon du quotidien. Plus une personne est superficielle, plus elle est susceptible de céder au mal. C'est la banalité du mal. Un indice de cette superficialité est l'usage des clichés. Et Dieu sait qu'Eichmann en était le parfait exemple.
Comment lier la banalité du mal aux trois mots en plus au loyer, deux fois le mot superficialité et celui de surface ?
Justement, parce que la banalité du mal, elle fait référence à cette incapacité de penser et de juger par soi-même. Et c'est pour cette raison que Arendt dit qu'elle peut se propager à la surface de la Terre comme un champignon. Donc c'est indissociable de cette superficialité-là, qu'elle oppose à la radicalité de la pensée, qui, elle, a des racines, qui s'ancre en fait. Mm-hmm. Alors que la superficialité du mal peut se propager sans limite parce qu'elle n'a pas de racines. Et parce qu'elle n'est pas arrêtée par la radicalité de la pensée et par le fait que des individus, tout à coup, se disent « Mais non, je ne peux pas obéir à ces ordres criminels. »
Ce qui est éclairant, par ailleurs, chez Hannah Arendt, c'est la distinction claire qu'elle fait entre la responsabilité politique et collective d'un groupe ou d'un peuple d'un côté et la responsabilité personnelle devant un tribunal. Alors justement, pourquoi cette distinction-là compte-t-elle à ce point ?
Alors la responsabilité personnelle devant un tribunal, elle est à la fois juridique et morale parce que c'est un individu qui est jugé pour ses actions. Et la responsabilité politique, c'est une responsabilité qui est plus large, qui est le fait des individus qui composent une communauté politique. Et pour cela, il faut faire partie d'une communauté et ne pas pouvoir s'en dissocier. Donc, c'est une responsabilité pour le monde, parce que pour Arendt, il y a quand même cette idée de monde commun et que la responsabilité politique. Elle est très importante pour les personnes qui composent le monde de la partager du point de vue collectif.
Alors à propos de monde commun et de monde commun qui se délite, je voudrais qu'on aborde un autre sujet au cœur de l'œuvre d'Hannah Arendt, le mensonge en politique, le lien avec la vérité, l'opinion, les faits, et vous faire entendre l'extrait d'un film de Steven Spielberg avec Tom Hanks et Meryl Streep intitulé Les Pentagon Papers.
Alors c'est tout. Comme ça, notre seule piste vient d'une éditorialiste. On se fait baiser la gueule alors qu'on joue à domicile.
Ben, faut pas exagérer, on parle d'un seul article.
Non, on parle de 7000 pages qui racontent en détail 30 années de mensonges de la Maison Blanche sur la guerre du Vietnam. Il y a Truman, il y a Eisenhower, John. Et Johnson qui mentent sans complexe sur le Vietnam. Et tu crois que c'est juste un article? Allons faire notre boulot. Dégotez-moi ce rapport.
On rappelle de quoi il s'agit. En juin 1971, le New York Times publie un document classé secret défense sur le rôle des États-Unis en Indochine depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à mai 1968. Comment Hannah Arendt a-t-elle accueilli et analysé ces Pentagon Papers ?
Alors, elle les a effectivement analysés dans le cadre d'une réflexion sur le lien entre vérité et politique. Et d'abord, il faut rappeler aussi que pour Arendt, la vérité, c'est vraiment le sol sur lequel nous nous tenons. Et que là, enfin, on peut faire aussi le lien avec ce qui se passe actuellement, les fake news, les faits alternatifs à la Trump. Voilà, c'est vraiment une... on a l'impression que le sol se dérobe sous nos pieds parce qu'il n'y a pas de vérité commune. Et pour Arendt, la vérité des faits, enfin qu'elle distingue en reprenant la distinction de Leibniz entre vérité de fait et vérité de raison, mais les deux sont coercitives. C'est-à-dire que la vérité de raison, par exemple, 2 plus 2 égale 4, ou voilà, c'est le genre de vérité qu'on peut démontrer scientifiquement, mais la vérité de fait, comme le fait qu'en 14, l'Allemagne a envahi la Belgique, c'est un fait, et une fois qu'il est admis, c'est coercitif, on ne peut pas, ça s'impose en fait. Galilée est seul à avoir raison contre tous. Donc pour ça, la vérité de fait est vraiment pour Arendt le sol sur lequel vraiment nous tenons. Donc à partir de là, le mensonge moderne pour elle, il se distingue du mensonge traditionnel qui consiste à cacher ou avoir une intention à cacher quelque chose. Alors que le mensonge organisé moderne pour elle, il revient à détruire. Parce que en fait, ça peut concerner des faits dont on a tous connaissance et qui pourtant sont substitués à une image mensongère de la réalité.
Mais alors sur les Pentagon Papers, sur l'État américain qui a masqué, dissimulé sciemment une bonne part de son implication dans la guerre au Vietnam notamment, ce mensonge-là d'État, de dissimulation, comment Hannah Arendt l'aborde-t-elle ?
Alors justement, elle l'aborde en montrant déjà qu'il y a une fabrication d'une image. Il y a deux caractéristiques. Déjà, elle montre comment il y a eu complètement une fabrication d'une image et comment ensuite ce qu'elle appelle les spécialistes de la résolution des problèmes ont essayé de faire coller leur décision à cette image.
Donc le mensonge est double. Il faut d'abord créer l'image. Deuxièmement, il faut faire croire que cette image est véritable.
Voilà, c'est ça. Et malgré les informations qu'ils pouvaient avoir, ils ont quand même, elle dit, on a l'impression que ça a été pris en charge par un ordinateur plutôt que par des hommes responsables des décisions. Donc là encore, il y a cette question de responsabilité qui revient et qui est une façon de se déconnecter complètement de la réalité et de faire coller, de prendre des décisions, même si on sait que c'est faux, en fait.
Que nous dit-elle, Hannah Arendt, lorsqu'une opinion devient une vérité, lorsqu'une opinion 20 fois, 1000 fois, 1 million de fois assénée est considérée par la majorité des gens comme une vérité? Est-ce qu'il y a là aussi une manière de déstabiliser entièrement, totalement notre monde commun et notre réalité commune?
Oui, complètement. Surtout, enfin, elle fait vraiment bien la distinction entre la vérité et l'opinion, et elle explique que la liberté d'opinion est une farce si l'information sur les faits n'est pas garantie et si ce ne sont pas les faits eux-mêmes qui sont l'objet du débat. Donc il y a vraiment, enfin, pour elle, l'opinion, d'ailleurs elle réhabilite ce terme d'opinion qui peut être en expliquant qu'une opinion c'est vraiment un point de vue construit sur le monde. C'est une expérience qui est construite. Ça, c'est vraiment le doc et moi, c'est ce qui m'apparaît du monde. Et ensuite, c'est vraiment cet échange d'opinions, de différents points de vue qui crée entre les individus le monde qui est entre nous et qui fait défaut justement actuellement. C'est cet entre-deux, cet entre qui fait défaut. Et donc le fait de se dire que une opinion, de mettre l'opinion sur le même plan qu'une vérité, pour elle effectivement c'est dangereux parce que en fait une opinion ne vaut rien si elle n'est pas fondée sur des faits.
Vous nous l'avez dit en introduction, Aurore Régène, la pensée d'Anna Arendt s'inscrit dans un contexte politique et historique très particulier, la seconde moitié du XXe siècle. Que nous dit-elle de la distinction, cette fois-ci, entre le mensonge produit en démocratie d'un côté et celui produit par des dictatures de l'autre? Ce mensonge de régime totalitaire, qu'est-ce qui le singularise là aussi?
Alors, déjà, elle fait la différence entre les régimes tyranniques, totalitaires, autoritaires. Mais en tout cas, dans le cadre du régime totalitaire, effectivement, il y a eu la fabrication d'une fiction qui est mise en œuvre par la terreur et qui est une idéologie au sens de la logique d'une idée et qui prétend expliquer tout le réel, en fait, avec une idée simple qui prétend expliquer tout le réel. Voilà. Et cette fiction, elle est justement elle dit c'est comme s'il y avait un homme unique aux dimensions gigantesques, parce qu'en fait il y a plus d'entre deux, il y a plus justement d'action, de paroles qui permettent de créer cet entre deux. Et donc la fiction elle écrase en fait dans le régime totalitaire, écrase complètement les êtres humains les uns sur les autres, et c'est ça enfin qu'elle décrit sous les termes de la fabrication de l'homme superflu, de la fabrication de la superfluité humaine. Et alors bien sûr, ce qu'elle met en évidence aussi, c'est que c'est à partir d'une atomisation sociale qu'il y a un terreau vraiment favorable à tous les régimes autoritaires ou totalitaires qui permettent de façonner l'être humain. Donc cette atomisation là, elle est aussi, enfin c'est quelque chose sur lequel il faut être assez vigilant aussi aujourd'hui, parce qu'on voit bien comment elle peut façonner et comment elle peut, il y a tellement de pertes de repères qu'elle peut intégrer dans une sorte de fiction là aussi. Mais ce que dit Arendt, c'est que dans justement les moments où tout le monde se laisse emporter parce que tout le monde fait et croit, la pensée devient une forme d'action.
Mais cela signifie-t-il que le mensonge en démocratie est encore plus pernicieux que celui qui existe dans un régime totalitaire, parce qu'en démocratie, les choses sont peut-être moins grossières et beaucoup moins grossières?
Non, en fait, il est tout à fait aussi dangereux. Enfin, il est très dangereux aussi, parce que justement, il y a ce danger de perdre le sol vraiment et l'espace commun d'expérience. Mais voilà, le risque n'est pas de se retrouver dans un camp de concentration. Donc c'est quand même là où il faut. Mais sinon, la question de la fiction et du
oui. Quel rôle, toujours en démocratie, quel rôle Anna Arendt confère-t-elle au journalisme, à la justice, à l'université, trois institutions qui aujourd'hui n'ont pas la cote?
Justement, le rôle d'être garante de la vérité. Et à l'époque, elle s'est réjouie que ce soit les journalistes qui aient mis à la disposition du public les documents du Pentagone, en disant que la liberté d'opinion est une cruelle mystification si on n'a pas si on n'a pas ce droit à une information véridique et non manipulée. Et quant à l'université, il y a aussi une responsabilité des intellectuels,
des
mais pour elle, cette responsabilité, c'est une responsabilité de dire la vérité. Et à partir du moment où on donne son opinion, on n'est plus, on ne relève plus de la responsabilité d'un intellectuel, mais on lui donne son opinion comme un citoyen.
Ce qui est passionnant avec cette réflexion d'Arendt, c'est qu'on en vient à une définition de la vérité. Conceptuellement, nous pouvons appeler la vérité ce que l'on ne peut pas changer. Métaphoriquement, elle est le sol sur lequel nous nous tenons et le ciel qui s'étend au-dessus de nous.
Exactement. Et donc, c'est à partir de cette vérité que l'opinion, la formation de l'opinion, la formation, la construction d'un point de vue sur le monde peut donner sens à une réalité commune.
Que fait-on d'Arendt aujourd'hui sans transposer n'importe comment ses analyses sur le totalitarisme dans des contextes qui sont profondément dissemblables? Comment la lire avec des pincettes, si je puis dire, tout en l'utilisant pour mieux comprendre le monde qui nous entoure ?
Je crois qu'on peut la lire en étant attentif à sa démarche intellectuelle, c'est-à-dire sa façon d'analyser chaque situation avec un éclairage historique, un éclairage politique, un éclairage sociologique, et sa façon d'en tirer des pistes de réflexion philosophique qui peuvent éclairer vraiment notre présent, mais encore une fois, avec ce souci, et ça c'est une responsabilité qui nous revient à nous, d'analyser ce présent en examinant vraiment la particularité des événements que nous vivons.
Donc c'est s'attacher bien plus à une démarche intellectuelle qu'à la substance de son œuvre ?
Non, parce que la substance de son œuvre nous donne beaucoup de pistes de réflexion, mais en tout cas, elles ne sont pas applicables, transposables directement comme une recette à d'autres événements, parce que chaque événement doit être vraiment analysé avec sa particularité.
Merci beaucoup, Aurore Mrejen, et on recommande très chaudement la lecture de votre ouvrage abordable, passionnant, intitulé « Introduction à Hannah Arendt », qui est paru le 10 juillet dernier aux éditions La Découverte. Merci également à celles et ceux qui ont pensé et fait cette émission. À mes côtés, Rodi Eken, Bruno Barada, Bertie Bourdon à la réalisation, François Richer